CDI Podcast.
Entrepreneur de légende.
Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode d'Entrepreneur de légende. Et vous allez le voir, aujourd'hui c'est un épisode très actuel. Je suis Mickaël Icard, journaliste pour CDI Média, et je suis accompagné de Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès. Bonjour Sylvain.
Bonjour Mickaël.
Ça va toujours ?
Parfait.
Aujourd'hui, je vous l'ai dit, l'épisode est consacré à un entrepreneur qui sévit encore de nos jours, puisque nous allons vous présenter le parcours de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, Taobao ou encore AliExpress entre autres. Un véritable empire créé en plein essor d'Internet dans un pays qui découvrait presque en même temps le capitalisme.
CDI Podcast. Entrepreneur de légende.
Sylvain, l'histoire de Jack Ma débute en 1964.
En effet, donc Jack Ma est né en 1964 à Hangzhou, près de Shanghai. Alors on dit Jack Ma, mais en fait son prénom de naissance, c'est Yun. On va voir qu'après, il changera son prénom en Jack pour le donner un côté occidental américain. Donc il naît dans un milieu plutôt modeste. Sa mère est ouvrière, son père vit un peu de la photographie, mais c'est une famille pauvre. Et la Chine, d'ailleurs, dans son ensemble, à l'époque, est très pauvre. Hein. C'est les années Mao, il y avait des famines dans les campagnes, etc. C'était vraiment un pays très pauvre. Et donc il a une enfance, on peut dire modeste, voire même pauvre. On sait relativement peu de choses précisément de son enfance, mais on sait notamment qu'il se passionne pour la littérature américaine, ce qui n'est pas banal puisque la Chine était un pays économiquement et culturellement extrêmement fermé, mais lui va découvrir notamment les aventures de Tom Sawyer, de Mark Twain, et il va vraiment prendre goût à la culture américaine, à la littérature américaine, et il va vouloir apprendre l'anglais.
Oui, une vraie passion pour la langue anglaise.
Voilà, pour la culture et la langue anglaise. Et donc, c'était pas facile à l'époque d'apprendre l'anglais. Aujourd'hui, ça nous paraît évident, mais dans un pays communiste, on est en pleine guerre froide, très fermé, avec peu de liens économiques, culturels. Donc, il se débrouille un peu comme il peut pour trouver des livres, apprendre un peu l'anglais sur le tas. Et donc, petit à petit, il va être un des Chinois de sa ville qui parle le mieux anglais, et c'est avec ça qu'il va en fait commencer à construire sa carrière, quoi. Essayer en tout cas de commencer à construire sa carrière.
Il y a quand même une évolution possible avec aussi l'évolution des mœurs et du pays en 1978.
Voilà, donc à la fin des années 70, après la mort de Mao, le pays s'ouvre progressivement au capitalisme et on va dire à la mondialisation. Donc là, ça devient plus facile pour Jack Ma, quoi qu'il s'appelle pas encore Jack, mais enfin, appelons-le Jack Ma, d'apprendre l'anglais. Et notamment, il y a les premiers touristes étrangers qui commencent à arriver. Et donc lui, il en profite pour améliorer son anglais. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il aborde des touristes dans la rue, donc des touristes anglo-saxons, et il leur propose de leur faire visiter la ville ou les environs gratuitement, et ça lui permet de parler anglais avec ces touristes et donc d'améliorer son anglais.
Et là, tu l'as dit, il faut resituer, à l'époque, dans les rues, quasiment aucun Chinois ne parlait anglais, quoi.
Oui, bien sûr, c'était un pays qui avait passé les dernières décennies pratiquement coupé du monde, et donc Jack Ma, il avait cet avantage qui est qu'il parlait anglais, alors assez mal au début, mais avec ses contacts avec les touristes étrangers, il a assez rapidement progressé, et donc c'est à ce moment-là qu'il a basculé son nom en Jack, hein. C'est un touriste américain qui lui a suggéré que ça faisait plus accrocheur, on retenait mieux, etc. Et donc, il apprend l'anglais et il va aussi rencontrer, c'est très important, une famille d'Australiens avec qui il va sympathiser et qui plus tard vont l'inviter en Australie. Donc, ça va lui permettre de découvrir le monde et qui vont même l'aider un petit peu financièrement dans les périodes difficiles, parce qu'il y aura eu beaucoup de périodes difficiles avant le succès de son entreprise.
Ce qui montre un des premiers traits de caractère de Jack Ma, c'est qu'il arrive à avoir une sorte de chaleur humaine et il arrive à créer des relations qui vont durer dans le temps et qui vont l'aider.
Oui, c'est quelqu'un de très jovial, de très spontané. Et d'ailleurs, après, quand il sera patron d'entreprise, il va continuer à utiliser ces qualités-là pour faire des shows, pour faire des grands discours à ses employés, pour, disons entre guillemets, mettre un peu l'ambiance dans ses équipes. Donc c'est quelqu'un qui a cette énergie.
Et on peut dire qu'il a une gouaille, quoi.
Voilà, une gouaille, un contact facile qui l'aide pour apprendre l'anglais au début et qui va ensuite l'aider pour motiver ses équipes, on va dire, quand il sera chef d'entreprise.
En parallèle de tout ça, il décide quand même de faire la poursuite de ses études.
Oui, alors il essaie, on va dire, de poursuivre ses études parce que c'est pas forcément un étudiant très brillant. Il échoue deux fois au bac, enfin l'équivalent chinois du bac. Alors il fait un peu des petits boulots en parallèle, puisqu'on l'a dit, quand il fait visiter la ville aux touristes, il se fait pas payer, hein, il fait ça pour apprendre l'anglais. Donc il vend un peu des journaux, il fait divers petits boulots. Ça marche pas toujours très bien. Il y a l'épisode où il tente d'être serveur chez KFC. Donc il y avait 24 places de serveur, 25 candidats, et tout le monde est pris sauf lui. Donc voilà, de nombreux nombreux échecs dans sa jeunesse. Alors, il s'en sort un petit peu, on va dire, à la force du poignet, au culot aussi. Donc, même s'il n'a pas le bac, ou on va dire le sort d'équivalent du bac, il parvient à s'inscrire dans une petite université un peu modeste de sa région pour continuer à apprendre l'anglais. Et il va réussir petit à petit à devenir professeur d'anglais.
En 1985, tu l'as dit, son premier voyage, et c'est en Australie, il rejoint la famille qu'il avait rencontrée dans les rues de Chine.
Voilà, la famille Morley, avec qui il avait sympathisé spontanément dans les rues de sa ville, qui l'invite en Australie. Et donc, c'est très important pour lui, parce qu'à l'époque, il y avait peu de Chinois qui avaient voyagé à l'étranger, ou en tout cas dans des pays capitalistes. Et donc là, il se rend compte que il y a des pays à l'étranger qui sont beaucoup plus prospères, contrairement à ce que disait la propagande chinoise. Il se rend compte de l'efficacité aussi de l'entreprise privée sur le modèle chinois. La Chine, dans les années 80, c'est encore un pays extrêmement pauvre. Et donc, c'est vraiment un voyage qui va, on va dire, changer sa perception des choses, et lui donner une vision de l'économie, de l'entreprise, que beaucoup de Chinois en fait n'ont pas encore à cette époque. Donc ça, c'est on va dire une très grande ouverture d'esprit pour lui.
En 1988, tu l'as dit, il devient prof avec une licence d'anglais en poche.
Voilà, donc il parvient à décrocher, on va dire, l'équivalent d'une licence, et il trouve un petit emploi de professeur d'anglais. Donc là, ça gouaille, effectivement, l'aide à nouveau à être un très bon professeur. Donc avec lui, on fait pas de grammaire, on fait que des exercices pratiques, et vu qu'il sait très bien animer sa classe, en fait, c'était plutôt, on peut dire, un bon professeur. Mais il a plus d'ambition, en fait, que d'être simplement, entre guillemets, professeur. Il veut vraiment créer des entreprises.
Oui, au fond de lui, il a cette âme d'entrepreneur qui le ronge.
Voilà, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui veut grandir, qui veut, alors pas forcément faire fortune, mais enfin réaliser de grandes choses. Et puisque l'économie chinoise est en train de se transformer, les entrepreneurs commencent à être non seulement acceptés, mais en plus encouragés, en tout cas dans une certaine mesure, il va créer sa première société donc en 1994.
Oui, parce que là, tu le dis, mais on l'a pas dit au début, mais avoir une société privée, à l'époque, avant ces années-là, c'était presque interdit.
Alors, avant les années 80, c'était tout simplement interdit, on allait tout droit en prison. Dans les années 80, ça a commencé à être possible dans certains secteurs, et puis petit à petit, les secteurs, on va dire, libéralisés ou ouverts au privé ont été agrandis. Alors, le Parti communiste chinois contrôlait, et on va le voir, contrôle toujours étroitement les entreprises. Mais disons que dans les années 90, il y a de plus en plus de pans de l'économie chinoise qui sont ouverts à la concurrence et aux entreprises privées.
Et donc, tu l'as dit, 1994, sa première société est fondée.
Voilà, donc il crée une société qui s'appelle Hope, donc l'espoir en anglais, hein, c'est pas anodin. Et donc l'idée de cette entreprise, au début, c'est pas de vendre des produits comme le fera Alibaba par la suite, c'est en fait de mettre en contact des entreprises occidentales et des entreprises chinoises. Puisque dans les années 90, il y avait encore eu très peu d'échanges économiques et culturels entre la Chine et l'Occident. Et les entrepreneurs, soit chinois qui veulent vendre à l'international, soit les étrangers qui veulent investir en Chine, eh bien, c'était pas forcément facile de comprendre le fonctionnement, de comprendre la langue, de comprendre le fonctionnement spécifique de chaque pays, de chaque culture, etc. Et donc, lui, il se pose un petit peu comme un intermédiaire entre le monde des affaires chinois et le monde des affaires internationales.
Il favorise un peu une sorte de traduction internationale pour les affaires, quoi.
Voilà, donc il fait de la traduction et, on va dire, du réseautage, de la mise en contact.
Et du coup, il se fait repérer par le gouvernement.
Oui, alors, donc son entreprise commence modestement, on va dire très modestement, même en parallèle, il essaie de vendre un peu tout et n'importe quoi pour essayer de maintenir son entreprise à flot. Il va se faire effectivement repérer par le gouvernement, et notamment on va l'envoyer aux États-Unis pour régler un différend. Alors il y avait une histoire compliquée d'une société d'autoroute américaine, une bisbille dans un contrat, et on l'envoie aux États-Unis pour essayer de régler ce problème-là. Alors, bon, il y a plein d'histoires, il tombe sur un entrepreneur véreux qui menace de l'enfermer, enfin, il y a un peu des rebondissements, mais ce qui est très important, c'est que dans ce voyage aux États-Unis, il rencontre, il découvre Internet, qu'il n'avait jamais vu avant, hein. On est au milieu de la décennie 90, donc Internet est en train de se développer aux États-Unis, rappelons qu'Amazon a été créé en 94, et il découvre Internet, et c'est pour lui vraiment un coup de foudre, et il se dit, c'est ça la technologie du futur, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, désormais, il aura une seule obsession, c'est de se lancer sur Internet. Alors, sans trop savoir comment au début et qu'est-ce qu'il va vendre, etc. Mais en tout cas, il sait qu'il veut travailler avec Internet.
Et donc, du coup, tu l'as dit, à son retour, très rapidement, en 95, il crée sa première société, qui est aussi une des premières sociétés chinoises de l'Internet.
Voilà, donc au début, il crée un site Internet pour son entreprise Hope, mais bon, ça ne marche pas très bien. Et donc, en 95, il crée une nouvelle société, China Page, qui est, en fait, on peut dire, une sorte d'annuaire en ligne. Donc à l'époque, il n'y avait que des annuaires, les vieux bottins à papier comme on les a connus en France. Et lui, son idée, c'est de créer en fait un peu la même chose. Donc toujours pour mettre des entreprises en relation entre elles. Hein, c'est un annuaire pour les entreprises et pas pour les particuliers. Et donc de faire ça en ligne, une sorte d'annuaire d'entreprise en ligne, toujours pour mettre en contact le monde des affaires chinois et occidental. Alors ça marche moyennement, on va dire, au début. Il emprunte un peu d'argent à ses amis, notamment au Morlaix, hein, ses amis australiens qui avaient un niveau de vie bien supérieur à lui. Donc il lance cette entreprise avec des débuts pas forcément très faciles. Il y a une province qu'il contacte pour faire un site internet. Et il faut voir qu'au début, quoi, à cette époque, Internet est naissant dans le monde et à peu près inconnu en Chine. Hein. C'est un des précurseurs, c'est un des premiers à lancer une entreprise sur Internet en Chine. Donc quand il démarche des clients chinois et qu'il leur dit « je vais faire des affaires sur Internet », les gens ne savent même pas ce qu'est Internet. Donc en fait, le fait d'être tellement précurseur, on peut dire, bloque un peu...
Ça a été un frein pour lui.
Ça a été un frein parce qu'en fait, vu que Internet n'était vraiment pas du tout connu en Chine, et bah, du coup, la société a eu un peu de mal à prendre au début.
Mais finalement, cette société, avec un peu la force de ce Jack Ma, elle commence à avoir quand même un petit succès.
Oui, alors elle a un petit succès, et en fait peut-être un peu trop, puisque le gouvernement chinois, qui tolérait les entreprises privées dans une certaine mesure, on va le dire, commence à dire que cette société prend peut-être trop d'indépendance, trop d'autonomie, et en fait, l'entreprise est rachetée, on peut dire de force, hein, par un groupe étatique chinois, et Jack Ma est... on peut dire contraint, en fait. Il devient fonctionnaire à Pékin dans un ministère pendant 2 ans. Et en fait, on ne lui a pas trop demandé son avis. Hein. C'est-à-dire que...
Donc du coup, il doit vendre sa société, enfin du coup, fusionner avec une société contrôlée par l'État et aller se mettre dans un petit placard.
Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le gouvernement chinois tolère les entreprises privées, mais veut garder contrôler l'économie d'une main de fer. Donc dès qu'il y a une société dont le pouvoir pense qu'elle peut devenir un peu trop indépendante ou alors qu'elle peut intéresser des copains bien placés d'un ministre ou autre, eh ben elle est rachetée et évidemment, vous n'avez pas votre mot à dire. Quoi. On ne vous demande pas vraiment votre avis. Donc Jack Ma, il connaît un peu une traversée du désert pendant 2 ans, à la fin des années 90, où il est un peu placardisé en fait, dans un ministère. Donc il ronge un peu son frein parce que lui, il a plein d'idées, il voit les autres qui les lancent et lui, il passe 2 ans en fait, à attendre, à prendre la poussière dans un ministère.
Mais ça ne va pas l'arrêter.
Non, ça ne va pas l'arrêter. Donc quand il est à nouveau, on va dire, autorisé à recréer une entreprise, donc on est en 1999, et là, il fonde donc, Alibaba, donc, qu'on connaît toujours aujourd'hui.
C'est peut-être un mal pour un bien, en fait.
Peut-être que ça lui a permis de mûrir ses idées, de réfléchir. Il a aussi pu, quand il était au ministère, rencontrer Jerry Yang, qui est le cofondateur de Yahoo, donc un Américain d'origine chinoise, avec qui il a pu échanger un peu, ce qui a pu lui donner des idées. Donc peut-être que ces 2 années l'ont forcé un peu à maturer son projet. Donc peut-être d'une certaine façon, c'est un mal pour un bien, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, dès qu'il peut, il recrée une société, donc Alibaba. Donc Alibaba pour avoir un nom international, hein, dans le monde entier quand on dit Alibaba on pense Sésame ouvre-toi, les 40 voleurs, etc. Et donc c'était pour avoir un nom international, ce qui prouve l'ambition dès le début, hein, puisqu'il choisit ce nom puisqu'il est connu dans le monde entier. Donc il a dès le début une ambition internationale, il a compris qu'Internet était une technologie mondiale et que donc une société Internet doit avoir un raisonnement, une stratégie mondiale dès le début.
Et toutes ces influences sont internationales, hein, de toute façon.
Oui, alors il a toujours, dès le début, été très influencé par la culture américaine, dans les années 90 par le film Forrest Gump. Donc c'est intéressant parce que lui, il est un petit peu dans le côté Forrest Gump, Jack Ma, c'est-à-dire une personne un peu originale, un peu décalée, mais à la fois brillante. Donc il se reconnaît très bien dans le personnage de Forrest Gump, qui est une de ses grandes références culturelles, en effet.
Et c'est son énergie et son engouement qui vont réussir à dynamiser petit à petit la société.
Voilà, donc Alibaba au début, en fait c'est toujours une société dans la mise en relation d'entrepreneurs. Hein. C'est toujours un peu ce même filon que Jack Ma essaie de creuser, donc mettre en relation des entrepreneurs chinois avec des entrepreneurs internationaux. Donc là, ça marche un peu mieux. Internet commence à être connu. Il a déjà créé des sociétés avant, donc il sait un peu mieux comment ça marche. Alors, il est toujours pas informaticien. Hein. Il connaît pas grand-chose en informatique, donc il s'entoure d'informaticiens.
Oui, depuis le début, il fait ça. Il s'entoure de gens qui savent faire.
Tout l'aspect technique est confié à soit des sous-traitants, soit à des salariés informaticiens. Donc lui, il s'occupe de l'aspect international, puisque son gros atout, c'est de parler anglais, de bien connaître le monde occidental. Et puis d'avoir le flair, l'intuition, de motiver les équipes. Donc on l'a dit, c'est quelqu'un qui a de la gouaille, qui a de l'énergie, qui sait mettre une ambiance, alors qui est aussi très exigeant. Hein. C'est pas de la détente. On travaille beaucoup chez Alibaba, mais qui sait contacter des partenaires, qui sait vendre, qui sait séduire des banquiers, etc.
Donc, motiver ses équipes.
Motiver ses équipes. C'est un peu l'animateur de tout ça, en fait. Mais effectivement, la technique est déléguée à d'autres.
Et c'est un peu toute cette culture Alibaba qui va être un peu la raison de son succès dans cette effervescence d'Internet.
Oui, alors il s'inspire beaucoup de ce qu'on appelait la culture de la Silicon Valley, donc qui était inconnue en Chine, mais le côté un peu plus décontracté, un peu plus des primes au mérite, par exemple, ce qui était pas vraiment connu en Chine, des actions pour récompenser les salariés. Donc en fait, du fait qu'ils connaissent bien le capitalisme américain et occidental, eh ben il va importer en Chine les techniques qui ont fonctionné en gros dans la Silicon Valley. Il va les importer en Chine pour favoriser le développement de son entreprise.
Et 99, c'est évidemment le bon moment parce que c'est là où il y a le boom d'Internet en Chine aussi.
Oui, alors effectivement, la fin des années 90, c'est ce qu'on appelait la bulle Internet, c'est-à-dire que les sociétés Internet dans le monde entier, alors surtout aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier, connaissent un très fort engouement des investisseurs, donc leur cours boursier flambe. Alors Alibaba n'est pas encore coté en bourse, mais elle bénéficie de cet engouement, c'est-à-dire qu'il y a les premières sociétés Internet chinoises qui sont cotées aux États-Unis, donc même les investisseurs internationaux commencent à s'intéresser à l'Internet chinois. Et ça facilite grandement le développement d'Alibaba, puisque comme ça, l'entreprise peut lever des capitaux plus facilement. Donc elle va lever des capitaux auprès de grandes sociétés très connues comme la banque Goldman Sachs, ce qui fait que ça lui donne un peu à la fois des fonds, de la crédibilité et aussi du réseau. Donc en fait, 99, c'était vraiment le bon moment pour se lancer en Chine sur une société Internet.
Et là, Jack Ma, il est malin. Lui, il emmagasine de l'argent.
Voilà, donc en fait, il a peut-être un peu de chance. Je ne sais pas s'il avait prévu l'éclatement de la bulle Internet, mais au tournant des années 2000, la bulle Internet éclate. Donc là, le cours des sociétés Internet s'effondre.
C'est la catastrophe.
C'est la catastrophe pour tous ceux qui n'avaient pas levé d'argent, puisque ça devient beaucoup plus difficile de vendre des actions et de trouver des investisseurs sur des sociétés Internet. Mais la chance d'Alibaba, ou peut-être le génie de Jack Ma, ou son côté visionnaire, là on ne sait pas trop si c'est de la chance ou de l'intelligence. Mais en tout cas,
on lui donne à son crédit. Allez.
Voilà, on peut dire que c'était un côté visionnaire. Mais en tout cas, Alibaba avait levé beaucoup d'argent, beaucoup de capitaux au moment de l'effervescence, on va dire. Et donc, quand la bulle éclate, beaucoup de ses concurrents, eux, n'ont plus les moyens de se financer, mais Alibaba avait amassé, on va dire, suffisamment d'épargne et de trésorerie pour faire face à cette période difficile. Et donc, en fait, l'éclatement de la bulle, d'une certaine façon, va un peu... Alibaba est touché par ça, mais beaucoup moins que ses concurrents. Donc, d'une certaine façon...
Ça fait un peu le ménage autour de lui.
Ça fait un peu le ménage, voilà. Donc, en fait, Alibaba bénéficie, d'une certaine façon, de l'éclatement de la bulle Internet.
La société survit, et il est l'heure un peu de la diversification pour survivre.
Voilà, donc... Même si on a dit qu'Alibaba avait levé beaucoup de capitaux et que l'entreprise amortit plutôt bien la crise, c'est quand même une période difficile où il y a des licenciements, etc. Donc Alibaba, on le répète, au début, c'était toujours une entreprise de mise en relation d'entrepreneurs chinois et étrangers. Et donc là, l'entreprise se diversifie, alors un peu dans tout, dans les polices d'assurance, dans la banque, dans un peu à la stratégie de Jack Ma, c'est-à-dire qu'il avait déjà fait ça pour essayer de faire vivre son entreprise. Il essaie un peu tout, de vendre un peu tout et rien. Et donc avec des succès mitigés. Et le point de bascule, on peut dire, c'est 2003, quand Alibaba lance donc Taobao, qui est son site sur lequel l'entreprise vend un peu tout et rien, une sorte d'Amazon chinois, en fait, hein, c'est un peu l'équivalent. Et donc c'est vraiment là que ça va être le tournant pour Jack Ma et pour Alibaba.
Oui, c'est la révolution, puisque à l'époque, le marché de la vente en ligne en Chine, il est contrôlé par eBay.
Oui, donc en 2003, c'est eBay qui contrôle à peu près, on va dire, 90% de la vente en ligne en Chine. Ce qui est prodigieux, c'est qu'en 2 ans, Alibaba va complètement évincer eBay. Donc, en 2003, il y a 90% de part de marché pour eBay. Deux ans plus tard, Alibaba a pris plus de la moitié du marché. Donc il y a vraiment eu un basculement prodigieux qui est dû à plusieurs choses. Alors déjà, il y a eu l'épidémie de SRAS. Donc on connaît bien les épidémies maintenant.
On connaît bien, ouais,
et on connaît bien leurs effets. Donc ouais. L'épidémie actuelle de Covid a beaucoup bénéficié à des sites comme Amazon en France, à tout ce qui est vente en ligne. Et ça avait déjà été le cas en 2003 en Asie, puisque l'épidémie de SRAS, donc, avait été beaucoup moins virulente que celle d'aujourd'hui, avait déjà eu à peu près les mêmes effets sur le commerce, c'est-à-dire que les gens n'allaient plus en magasin.
Ils avaient peur d'aller en magasin.
Voilà, ils n'allaient plus en magasin en Chine et à Hong Kong et ils achetaient en ligne. Donc ça a beaucoup aidé Alibaba. Donc en fait, un peu par hasard, ils sont arrivés au bon moment, on va dire. Et ce qui les a beaucoup aidés, c'est les erreurs en fait, de eBay, puisque eBay a, disons, copié ce qui marchait aux États-Unis pour le mettre en Chine. Et ça, ça a été l'erreur fatale d'eBay, c'est qu'ils n'ont pas compris les spécificités du marché chinois. Par exemple, le site internet d'eBay, il était très dépouillé, un peu à l'occidental, alors qu'en fait, le consommateur chinois, lui, il aime farfouiller. Il aime retrouver sur un site internet l'ambiance des marchés un peu foisonnants qu'il pouvait y avoir en Chine. Donc par exemple, sur Alibaba, quoi, sur Taobao, mais en disant sur Alibaba, on peut négocier avec un vendeur. Donc en ligne, il y a un peu de chatter, dire bah, à combien tu me vends ça, bah non, tu peux me le faire à temps, etc. Donc,
c'est ce qui se fait en vrai dans les rues en Chine quand tu achètes quelque chose.
Voilà, donc en fait, la force en fait, de Jack Ma, c'est qu'il connaît le marché chinois, il sait comment se comporte le consommateur chinois, et donc il adapte son site aux habitudes du commerce à la chinoise. Alors que eBay, lui, prend les standards occidentaux, les applique en Chine et point final, sans se demander si le consommateur chinois, ça lui plaira ou pas. Et donc ça a été eBay, c'est vraiment tirer une balle dans le pied, on va dire. Par exemple, un autre exemple très intéressant, c'est que Jack Ma, dès le début, dans ses colis, il met des petits cadeaux, des petits bibelots, des petits bonbons, des choses comme ça, ce à quoi le consommateur chinois est extrêmement sensible. Pour un consommateur chinois, si vous ne mettez pas des petits bibelots dans les paquets, ça veut dire que vous ne respectez pas le consommateur. eBay, il ne pense pas du tout à ça. eBay aussi avait, on peut le dire, pris peut-être un peu la grosse tête, c'est-à-dire qu'il commençait à prélever des commissions importantes en se disant, de toute façon, on a le monopole, on va augmenter nos commissions. Alors que Taobao, pas du tout. Hein. Taobao ne prélève absolument aucune commission. Donc en fait, c'est une plateforme un peu comme Amazon de mise en relation.
C'est une place de marché.
Une place de marché, voilà, exactement. Une mise en relation entre des vendeurs et des acheteurs. Donc Taobao ne stocke rien. Hein. C'est juste la mise en relation. Et c'est complètement gratuit, à la fois pour les vendeurs et pour les acheteurs. Donc le site se rémunère avec les pages de pub et il se rémunère en proposant aux entreprises la possibilité, en payant, d'être mieux placé sur le site, donc d'avoir plus de visibilité. Mais en fait, vu que Taobao est gratuit et que eBay, lui, était payant et de plus en plus cher, ça a aussi grandement bénéficié à Alibaba et à Jack Ma.
Il est resté dans son idée de mise en relation, en fait, Jack Ma, depuis le début.
C'était son idée de mise en relation, seulement qu'au lieu de mettre en relation des entrepreneurs chinois, des entrepreneurs étrangers, bah, il met en relation des vendeurs chinois et des consommateurs chinois.
Taobao, évidemment, comme tu l'as dit, bah, ils écrasent un peu eBay. Et rapidement, en 2014, Alibaba rentre en bourse.
Voilà, c'est un point marquant parce que c'est une des plus grandes introductions en bourse de l'histoire en termes de montants qui sont levés. Donc à la bourse de New York, hein, là, en plus, c'est vraiment la petite, quoi, ex-petite société chinoise qui va sur la plus grande place financière mondiale, lever énormément d'argent. Et donc l'entreprise, non seulement récolte des fonds pour se développer, mais aussi gagne une très forte notoriété internationale à ce moment-là.
Donc après cette entrée en bourse, évidemment, pour que tout continue de fonctionner et de prospérer, il faut penser à quelque chose que Jack Ma adore, à savoir la diversification.
Oui, une des principales diversifications de l'entreprise, c'est dans les services financiers. Puisque quand on pense à Alibaba, on pense à une sorte d'Amazon chinois, mais c'est aussi une banque chinoise très, très importante. C'est-à-dire que les banques en Chine sont totalement contrôlées par l'État et les placements ne sont pas du tout intéressants, puisque l'État utilise l'épargne des Chinois un peu comme un moyen détourné de lever de l'impôt. Donc elle contrôle des banques chinoises, elle verse très peu d'intérêt aux épargnants et l'État utilise l'argent pour un peu comme s'il avait prélevé de l'impôt, en fait. Et donc, ce qu'a fait Alibaba et d'ailleurs d'autres grands groupes chinois, c'est qu'ils ont proposé des services financiers à leurs consommateurs. Donc, en fait, Alibaba, c'est à la fois, l'équivalent d'Amazon, et à l'équivalent, disons, de PayPal ou d'une banque en ligne, donc avec la filiale Alipay. Donc ça, c'est vraiment une entreprise qui propose un ensemble de services. Ils proposent à la fois le produit physique, la livraison, la vente du produit physique, et les services financiers qui permettent d'obtenir un crédit, de mettre de l'argent sur un compte courant, etc. Donc c'est vraiment un ensemble global qu'on connaît, qui n'a pas forcément d'équivalent en fait chez nous.
Alibaba, c'était quand même centré vers la Chine. Hein. Taobao, c'est un site essentiellement chinois. Mais il y a quand même une volonté de se diversifier à l'international.
Oui, alors l'entreprise a tenté de se diversifier hors de Chine, alors avec des succès mitigés. Donc, elle a tenté un peu dans tous les pays. Globalement, on peut dire qu'à l'international, c'est quand même Amazon qui reste la référence sur tout ce qui est le commerce en ligne. Alors, on peut penser en France ou même dans d'autres pays à AliExpress qui commence à gagner des parts de marché.
Oui, qui est donc du coup la tentative d'Alibaba de réussir à l'international avec AliExpress.
Voilà, c'est un peu la vision de Taobao à l'international, donc qui commence à prendre un petit peu, mais le succès est quand même beaucoup moins, on va dire, foudroyant qu'en Chine, puisqu'il y a Amazon et d'autres qui sont des entreprises déjà bien établies, et c'est beaucoup plus dur de venir leur gagner des parts de marché.
Jack Ma a quitté la présidence d'Alibaba.
Oui, donc Jack Ma a été un temps l'homme le plus riche de Chine. Après, bon, sa fortune a un peu baissé, en tout cas relativement à d'autres entrepreneurs. C'est vrai que ces dernières années, on en a beaucoup parlé. Donc il a quitté la présidence de l'entreprise et il semblerait, alors il faut parler au conditionnel parce que le monde des affaires et de la politique chinoise est assez opaque, mais il semblerait qu'il soit tombé en disgrâce vis-à-vis du Parti communiste.
Il a été critique en tout cas.
Alors il a été critique, il a fait une conférence où il a critiqué le système bancaire chinois. Et ensuite, il a disparu pendant plusieurs mois. Il y a eu tout un tas d'idées, de suppositions. Alors, est-ce que le Parti communiste chinois lui a interdit de parler, l'a mis en prison ? Enfin, on sait pas trop. Hein. Il y a un peu de mystère autour de ça. Mais il semblerait que depuis quelques mois, années même, le pouvoir chinois commence à se dire que ces entrepreneurs qui ont réussi au-delà de toutes leurs espérances... prennent un peu trop de pouvoir, un peu trop de liberté. Par exemple, l'an dernier, Alibaba a voulu introduire une filiale, donc la filiale qui détient Alipay en bourse à Hong Kong. Et au dernier moment, le Parti communiste chinois a dit « Non, on bloque tout, vous ne vous cotez pas en bourse ». Donc il y a le sentiment que le pouvoir politique chinois ait envie de taper sur les doigts de ces grands groupes internet chinois qui prennent à ses yeux un peu trop de puissance. Donc c'est vrai que ces dernières années ont été un peu plus difficiles pour Jack Ma.
Mais on n'est pas à l'abri de le voir revenir avec une nouvelle idée qui sortira de son chapeau.
Ah non, on n'est pas bien sûr à l'abri de le voir revenir, mais il va falloir qu'il arrive à jongler ou à se faufiler dans les méandres de la politique chinoise, et visiblement c'est pas forcément très facile.
C'est donc une véritable épopée qu'a connue ce Jack Ma, hein, ce jeune Chinois passionné par la culture américaine et par la langue anglaise, qui a réussi, grâce à, on va le dire, beaucoup de chance, à créer un réel empire qui a révolutionné le commerce chinois et qui est désireux de révolutionner le commerce international. Merci Sylvain.
Merci Mickaël.
Sylvain, on se retrouve dans 15 jours, évidemment.
Avec plaisir.
Avec grand plaisir, pour raconter un nouveau portrait d'entrepreneur inspirant que vous pourrez vous retrouver sur CDI Podcast ou sur toutes les plateformes audio. À très vite.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.